Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, les cadres sont-ils des ouvriers comme les autres ? L'expression a longtemps résonné comme une promesse. Passe ces cadres, dans une entreprise, c'était l'assurance de se faire une place chez les privilégiés. Un meilleur salaire, un travail plus autonome, des perspectives de carrière, sans oublier les notes de frais et les voyages en première classe. En échange de quoi, l'heureux élu avait coutume de ne pas se rendre avare de son temps ni de son énergie, de faire preuve de fidélité et de ne prendre part à aucun mouvement social. Image d'Épinal que ce travailleur bien rangé est proche de la direction, car les cols blancs sont parfois des salariés en colère comme les autres. Un appel à la mobilisation a été lancé par la CFE-CGC, syndicat de l'encadrement, demain pour protester contre la loi travail, alors que débutera son examen à l'Assemblée. Manque de reconnaissance financière et symbolique, stress, rémunération qui stagne, les cadres, du moins une partie d'entre eux, ont vu leurs conditions de travail se dégrader au fil des ans. Ils craignent que la loi El Khomri y contribue encore un peu plus. Leurs revendications ne semblent d'ailleurs pas si éloignées de celles des autres salariés. Et si le malaise des cadres était plus qu'un marronnier pour hebdomadaire, les cadres sont-ils des ouvriers comme les autres ? C'est notre sujet du jour. Et ils sont trois invités pour en discuter ce soir. Carole Couvert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la CFE-CGC depuis 2013. La CFE-CGC, c'est donc la Confédération française de l'encadrement, environ 160 000 adhérents.
C'est ça.
Des cadres uniquement ?
Non, pas des cadres uniquement. Nous représentons des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres, des ingénieurs, mais aussi les agents des trois fonctions publiques.
Et vous vous définissez souvent comme une organisation réformiste militante.
Tout à fait. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on sorte d'une lecture binaire du paysage syndical. Il y a une offre qui est plurielle et il ne faut pas mettre les gens dans des petites cases. Nous pouvons être tantôt réformistes parce que nous faisons des propositions. Nous essayons de rechercher un compromis intelligent dans l'intérêt des entreprises comme dans l'intérêt des salariés, pour être dans une démarche durable et responsable. Et si ces propositions ne sont pas entendues, alors oui, nous pouvons être aussi contestataires, nous pouvons nous opposer, manifester. Et là, typiquement, c'est le cas demain. Demain, nous appelons un rassemblement à 11h sur l'esplanade des Invalides. L'idée, c'est de dire, pesons sur le débat à l'Assemblée nationale pour faire bouger ce projet de loi en faveur des salariés.
Alors, on va y revenir le temps de présenter les autres invités. Notre deuxième invité est en duplex depuis les studios de la Radio Nationale Espagnole à Madrid. Il s'agit de Denis Moneuse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Vous êtes aussi consultant, directeur du cabinet de conseil Poil à gratter. Vous avez publié « Le silence des cadres, enquête sur un malaise ». C'était aux éditions Vuibert en 2014. Et notre troisième invitée est Sophie Binet. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui vient d'arriver. Je vous laisse le temps de reprendre votre souffle. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT, qui est le syndicat des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. Vous êtes aussi membre de la direction confédérale de la CGT. Est-ce qu'on peut dire que l'UGICT, c'est une branche de la CGT ?
Oui, l'UGICT regroupe les 80 000 ingénieurs, cadres et techniciens qui sont syndiqués à la CGT. Et l'objectif, c'est de permettre la prise en compte de leurs spécificités liées à leur vécu au travail et à leur situation de salarié en responsabilité.
Denis Moneuse, on dit que les cadres manifestent rarement leur mécontentement. Votre livre s'intitule d'ailleurs « Le silence des cadres ». Comment est-ce que vous expliquez la mobilisation à venir demain et la colère des cadres contre la loi travail ?
Justement, ça va être une grande question de demain pour voir quelle va être cette mobilisation. Est-ce qu'elle va être réelle dans les faits ? Parce qu'on sait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, les cadres sont plutôt plus syndiqués que la moyenne des salariés. En revanche, ils ont un rapport au syndicalisme qui est assez différent. Ils voient plus le syndicalisme comme une sorte de service public, quelque chose qui est nécessaire pour négocier des lois, des accords collectifs, aussi bien dans l'entreprise qu'au niveau national. En revanche, lorsqu'il s'agit de manifester, de faire grève, ils sont très peu nombreux. Pour vous donner un chiffre, d'après l'INSEE, on a calculé qu'à peu près un cadre français en moyenne fait une seconde de grève par an. Donc vous voyez que ça reste extrêmement limité. Et d'ailleurs, on l'avait vu au moment de des grandes manifestations contre la réforme des retraites, les cadres s'étaient relativement peu mobilisés. Et ceux qui se mobilisent sont essentiellement dans le secteur public.
Donc un rassemblement donc à l'appel, je le disais tout à l'heure, de la CFE-CGC, dont nous avons la présidente ici. Est-ce qu'il est ouvert aux autres syndicats de cadres et même aux autres catégories socioprofessionnelles, Carole Couvert ?
Le rassemblement de demain ?
Oui, absolument.
Alors à la base, c'est un appel 100% CFE-CGC. On l'a lancé il y a à peu près un mois. À l'époque, la question s'est posée de savoir comment on appréhendait ce projet de loi qui est quand même relativement controversé. La question était, est-ce qu'on est dans une logique de retrait ou est-ce qu'on est dans une logique d'évolution ? On a eu un long débat avec l'ensemble de nos fédérations et on s'est dit, il vaut mieux faire le pari du débat parlementaire, proposer un certain nombre d'amendements, aller faire de la pédagogie auprès des députés pour que ce texte bouge. Donc c'est un rassemblement 100% CFE-CGC puisque nous ne sommes pas sur le retrait, mais je sais que d'autres organisations demain appellent à manifester. Et là, après, c'est le respect du fonctionnement de chaque organisation. Je ne me permettrai pas de me prononcer pour les autres.
Sophie Binet de l'UGICT, est-ce que demain vous allez manifester aux côtés de la CFE-CGC ou de votre côté ?
Alors en fait, nous organisons un rassemblement à Invalides, c'est-à-dire à peu près au même lieu, dans lequel la CGT, quand elle appelle à se mobiliser depuis un mois et demi maintenant contre ce projet de loi, il y a toutes les catégories de salariés qui se mobilisent, et y compris des cadres. Et donc ce qu'on a remarqué d'intéressant depuis le début de cette mobilisation, c'est que on a vu des cadres jusque-là pas syndiqués ou peu intéressés, des cadres dans les sièges sociaux par exemple, qui signaient la pétition, qui venaient pourquoi pas manifester ou faire grève, et donc qui sont très sensibles à ce projet de loi et plutôt opposés à ce projet de loi parce qu'ils ont bien compris qu'on ne créait pas des emplois en baissant le droit du travail, et puis parce que dans le projet de loi El Khomri, il y a un certain nombre de reculs spécifiques pour les cadres. Le premier d'entre eux, c'est sur la question des forfaits jours, puisque la France a été condamnée à 4 reprises par l'Europe pour non-respect de la réglementation européenne en matière de temps de travail, et au lieu de rentrer dans le cadre et d'appliquer la jurisprudence européenne, eh bien la France persiste et signe et élargit encore les possibilités de recours au forfait jour qui permet que le temps de travail soit décompté en jours et non plus en heures. Et dans ce projet de loi, il y a une disposition qui permet de sécuriser les employeurs contre les procès qu'on multiplie aujourd'hui contre les accords de forfait jour qui ne respectent pas cette jurisprudence française et européenne. Donc il y a beaucoup de motifs de mécontentement des cadres aujourd'hui contre la loi travail, certains spécifiques à leur situation et puis d'autres plus larges sur l'inversion de la hiérarchie des normes ou la facilitation des licenciements économiques par exemple.
Alors avant de rentrer dans le détail des points problématiques de la loi travail spécifiquement pour les cadres, juste une dernière question sur la mobilisation. Est-ce que c'est pas un petit peu étrange d'avoir, comme vous l'avez décrit, deux manifestations pas si éloignées l'une de l'autre dans Paris, de deux syndicats de cadres ? Est-ce que vous ne gagneriez pas à manifester ensemble ?
Il y a effectivement une divergence stratégique, on va dire, sur est-ce que c'est retrait ou modification du projet de loi. Nous, on s'est dit...
Donc vous êtes sur la ligne retrait.
Tout à fait, parce que quand on a regardé les 120 pages du projet de loi, globalement, il faudrait en retirer au moins 110 ou 105 pour que ça soit acceptable. Donc c'était quand même plus simple et plus lisible de dire retrait au vu de l'ensemble des reculs qu'il y a dans le projet de loi. Pour autant, il y a un certain nombre de critiques sur le projet de loi que nous partageons et que nous avons partagé ensemble.
Carole Couvert.
Alors pour nous, justement, on le voit comme l'occasion de sécuriser un certain nombre de choses dans l'intérêt des salariés et des entreprises. Et donc, typiquement, sur le forfait jour, on est allé débattre avec les parlementaires parce que c'est un sujet qui est très technique. Les forfaits jours, ça concerne 1,5 million de salariés, ça concerne 47% des cadres, ça concerne 3% des non-cadres. Mais parfois, ça peut être tellement technique qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de proposer. Et là, typiquement, on demande à la fois à sécuriser la charge de travail, à leur donner un vrai droit à la déconnexion, donc une vraie coupure, pour arriver à concilier mieux vie professionnelle et vie familiale, offrir la possibilité du forfait jour aux salariés à temps partiel, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc on se dit, c'est une occasion de sécuriser ce dispositif. Et puis, à côté de ça, il y a des points sur lesquels aujourd'hui le texte est une vraie régression. C'est typiquement les licenciements économiques. Si la rédaction reste en l'état, il sera possible pour des grands groupes implantés dans différents pays d'utiliser de façon abusive le projet pour licencier. Et là, effectivement, nous disons, c'est pas en facilitant les licenciements économiques qu'on va inverser la courbe du chômage.
Denis Moneuse, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu en détail le projet de loi travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'il pose spécifiquement problème pour les cadres, même si les cadres ne sont pas les seuls à manifester leur mécontentement contre ce texte ?
Personnellement, je vois plutôt les mobilisations en cours et à venir comme une mobilisation des classes moyennes qui se sentent paupérisées, qui sont inquiètes par rapport à la situation économique et par rapport à la situation personnelle dans l'entreprise, que comme une manifestation propre au statut de cadre.
Vous voulez dire que la loi agit plus comme un révélateur sur une catégorie sociale que des amendements, des articles qui poseraient spécifiquement problème. Il y a quand même la question des forfaits jours qui vient d'être soulevée.
Effectivement, il y a la question des forfaits jours, mais après, je ne suis pas sûr que tous les cadres soient contre le forfait jour, parce que beaucoup aussi sont contents d'avoir bénéficié du côté des 35 heures pour avoir des jours de RTT en plus. Et donc, lorsque ces forfaits jours leur permettent d'avoir une charge de travail qui est décente et qui leur permet d'avoir une sorte de flexibilité, ils ne sont pas nécessairement contre le fait d'avoir des jours de RTT en plus pour profiter de leur famille, de faire du jardinage ou autre.
Alors pour essayer de définir brièvement ce qu'est le forfait jour, c'est une sorte quelque part de dérogation aux 35 heures qui permet donc de compter le temps de travail non pas en heures hebdomadaires mais en jours par année en raison de 118 jours maximum par année. 47,8% des cadres y sont abonnés, entre guillemets. Carole Couvert.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Denis Meneuse parce que je partage tout à fait. Il faut voir que la loi travail est en train de concentrer un mécontentement qui grognait depuis des mois. Les classes moyennes, puisque nous sommes repositionnés à la CFE-CGC sur les classes moyennes depuis 3 ans, ont subi un matraquage fiscal hors norme au cours de ces 3 dernières années. Si on fait juste la rétrospective rapide, on a eu une augmentation du forfait social, c'est-à-dire les prélèvements sur l'intéressement et la participation qui sont passés de 8 à 20%. On a eu la baisse du quotient familial qui mécaniquement a fait augmenter l'impôt des familles qui ont plus de 3 enfants. On a eu l'augmentation de TVA, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a eu un ras-le-bol parce que le pouvoir d'achat, le reste à vivre n'a fait que se réduire sur cette population-là. Et il y avait déjà une demande de manifestation qui a été stoppée net dans nos rangs par les attentats de Charlie Hebdo. Les attentats de Charlie Hebdo ont fait qu'il y a eu un sursaut, il y a eu un rassemblement, il y a eu un besoin de retrouver du sens, des perspectives. Et donc tout le monde est reparti dans une dynamique unitaire. Et puis progressivement, le quotidien est revenu. Et c'est cette étape boomerang que nous avons à nouveau aujourd'hui, de cadres qui sont désenchantés, qui ont vraiment besoin qu'on leur redonne des perspectives et du sens, qui n'ont pas forcément accès à la stratégie de l'entreprise ou qui ne la comprennent pas, donc qui ont besoin d'un partage plus grand, de cadres qui sont transformés pour certains en exécutants, donc ils ne retrouvent plus ni l'autonomie ni la capacité de responsabilité qui va avec. Et donc on a vraiment besoin aujourd'hui de redonner du sens à cette population. Et je crois que c'est le plus gros travail, c'est travailler à la fois qualité de vie au travail, dialogue social et politique de reconnaissance.
Justement sur ces différents points, que ce soit la qualité de vie, que ce soit la perte de sens ou que ce soit la précarisation, en quoi la situation des cadres est-elle différente et pire que celle des autres salariés?
Non mais la question c'est pas pire ou meilleur, c'est qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques au cadre. Bon, le titre de votre émission, c'est bien, il a le mérite d'être provocant. Moi je le retiendrai pas parce que finalement ça vise et ça conduit à gommer les spécificités des uns et des autres. On vit depuis plusieurs années avec une disparition de la catégorie ouvrière de tous les radars. Je pense que renvoyer le fait que les cadres seraient des ouvriers comme les autres, c'est un mépris supplémentaire et quelque part une insulte supplémentaire aux ouvriers qui du coup seraient les premiers à dire bah très bien, si c'est des ouvriers comme les autres, bah, donnez-moi au moins leur salaire. Parce qu'il reste quand même, malgré tout, il y a des problématiques de déclassement qui sont importantes, mais il reste heureusement une reconnaissance de la qualification et donc des différences salariales qui se justifient. Et surtout, il y a des spécificités liées au vécu au travail qui reposent sur la qualification et la responsabilité. Et donc, nous nous battons pour que justement, la responsabilité puisse être adossée à l'intérêt général et que un cadre qui peut être responsable devant les tribunaux et qui peut être poursuivi au nom de sa responsabilité professionnelle, il est la vraie possibilité de dire non et de pouvoir faire autrement. Parce que aujourd'hui, la difficulté, c'est que les cadres ne sont plus associés aux choix stratégiques dans l'entreprise. Il y en a 75% qui nous disent qu'ils n'y sont pas associés et que leur travail est vidé de son sens, très souvent parce que nous, on appelle à l'UGICT CGT le Wall Street Management, le management par les coûts. Et donc, du coup, il y a 55% des cadres qui nous disent que régulièrement, les choix ou pratiques de leur entreprise entrent en contradiction contradiction avec leur éthique professionnelle. Et donc nous pensons qu'il y a besoin d'avoir des droits spécifiques liés à la responsabilité professionnelle pour donner aux cadres un droit de refus, d'alerte et d'alternative et leur permettre d'avoir vraiment les moyens d'exercer leur responsabilité.
Denis Moneuse, à part le titre de cadre, quels sont aujourd'hui les avantages pour un collaborateur de passer cadre ?
Je dirais que les avantages sont les mêmes qu'auparavant, mais ils sont de moins en moins importants. En général, un cadre est quand même mieux payé qu'un non-cadre. En général, il a plus d'autonomie. Il a généralement un travail qui va être plus diversifié, qui va être plus varié. En général, il a quand même du prestige, surtout si ses parents eux-mêmes n'étaient pas cadres. Il y a quand même un sentiment de mobilité sociale. En revanche, tous ces avantages sont beaucoup moins importants qu'auparavant. Par exemple, les différences de rémunération entre les cadres et les non-cadres étaient de 1 à 4 dans les années 60. Aujourd'hui, elle est plus que de 1 à 2,5. En fait, donc on voit bien que les cadres gagnent toujours plus que les non-cadres. En revanche, cet écart s'est largement diminué. On a d'autres indicateurs, par exemple, comme le fait d'avoir un bureau individuel. Classiquement, c'était un avantage du cadre par rapport aux employés qui, eux, étaient en open space ou en bureau partagé. On voit que de plus en plus de cadres, eux-mêmes, sont en open space aujourd'hui. Donc on voit que ces avantages sont encore existants aujourd'hui, mais de moins en moins nombreux.
Vous donnez l'exemple dans votre livre d'une femme, d'une hôtesse de caisse dans un supermarché qui refuse une promotion de cadre pour devenir chef de rayon, calculant qu'elle va y perdre, que les avantages de passer cadre seront moins importants que les inconvénients qu'ils vont apporter. Est-ce que cette situation, elle est de plus en plus fréquente ?
Elle est de plus en plus fréquente au niveau du passage en termes de manager de proximité. Si je reprends cet exemple justement dans cet hypermarché, cette femme se rendait compte qu'en devenant manager d'une petite équipe en étant chef de rayon, elle allait gagner à peu près 300 euros de plus par mois. En revanche, son temps de travail allait exploser. Parce qu'en fait, elle était à 35 heures en étant employée. En passant cadre, en fait, elle est passée en forfait jour et a priori, on sait que dans les grandes surfaces, on a tendance à ne pas compter ses heures parce qu'on arrive tôt le matin et on part tard le soir quand on est manager. Et du coup, elle se rendait compte qu'elle n'aurait plus la possibilité de chercher ses enfants à l'école, etc. Et en plus, quand on est cadre, en général, on a plus souvent des clauses de mobilité. Et donc, par exemple, dans cette entreprise, les cadres peuvent être changés d'un magasin à l'autre alors que les employés, eux, sont restreints à un espace géographique beaucoup plus limité.
Sophie Binet, vous vouliez réagir.
Oui, la problématique à laquelle on est confronté, c'est un déclassement aujourd'hui des cadres, à la fois dans l'entreprise et dans la société. Et donc, cette histoire de promotion sans avoir ce qui va avec, effectivement, c'est un vécu massif, notamment chez les jeunes diplômés, à qui souvent on recrute un jeune diplômé sur un poste et très vite on lui propose d'évoluer parce qu'on voit bien que du fait de sa qualif, il peut effectuer davantage de responsabilités. Sauf que derrière, il n'y a pas l'augmentation salariale qui correspond. Il a une responsabilité supplémentaire, un titre supplémentaire, mais le salaire reste le même. Et donc, aujourd'hui, c'est la bataille que nous menons pour la reconnaissance de la qualification et le paiement de l'exercice de la responsabilité, parce que il y a de plus en plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, mais qu'aujourd'hui, le patronat refuse de payer les qualifications et d'augmenter les salaires en conséquence pour reconnaître ces qualifications.
Carole Couvert.
Oui, et puis en complément, il y a eu aussi une utilisation abusive par certaines entreprises du forfait jour. C'est-à-dire que ça a été utilisé pour contourner les 35 heures. Et donc, on a vu à l'arrivée des 35 heures, un certain nombre d'entreprises proposer à des techniciens, des agents de maîtrise de passer au statut cadre. Du coup, assorti du forfait jour, parce que la réalité d'un salarié au forfait jour, et c'est une étude de la DARES qui le démontre, c'est 44,6 heures en moyenne, et c'est 39% de la population au forfait jour qui travaille plus de 50 heures par semaine. Donc ça, c'est la première dérive. La seconde dérive, c'est encore une fois le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de cadres sont transformés en exécutants. Et on a un signal qui est extrêmement important, c'est une étude de l'APEC qui démontre qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés se tournent vers le secteur de l'économie sociale et solidaire, majoritairement, alors qu'en fait c'est un secteur qui paye 20% moins cher. Et donc pourquoi est-ce qu'ils y vont ? Ils retrouvent une transversalité, ils retrouvent une capacité à avoir des responsabilités, à avoir de l'autonomie. Et je crois que ça doit à nouveau nous interroger sur le sens. Comment on redonne du sens et des perspectives à cette population pour justement remettre en place l'ascenseur social ? Et je crois qu'à l'avenir, on va être amené à parler de cadres managers, de cadres experts pour arriver à repenser le statut cadre pour qu'à nouveau ça devienne un statut qui est intéressant, attractif, qui fasse envie et surtout qui permette aux jeunes diplômés de rester en France. Le défi, il est là.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Les cadres sont-ils des ouvriers comme les autres? C'est la question dont nous débattons ce soir avec Sophie Binet, qui n'aime pas beaucoup cette formulation et cela alimente le débat, avec Denis Moneuse, qui est sociologue, avec Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC. Excusez-moi, j'ai pas rappelé Sophie Binet. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UGICT-CGT, la branche cadre de la CGT.
Vouloir donner une définition précise de la fonction de cadre est une entreprise difficile et hasardeuse. Cela parce qu'il n'existe pratiquement aucun chiffre statistique sur le sujet. Mais en utilisant les quelques données connues, disons que les cadres français se comptent à environ 1 million d'exemplaires et sont des hommes dans 90% des cas, les femmes occupant les 10% qui restent. Ils gagnent, la fourchette est large, de 1500 à 4500 francs par mois. Ils ne sont pas aussi jeunes qu'on le croit, leur âge moyen se situe aux alentours de 45 ans, ni aussi diplômés qu'on l'imagine. Il y a plus de cadres arrivés par le rang qu'admis sur titre universitaire. Cela explique d'ailleurs qu'un très grand nombre d'entre eux n'accèdent au poste de cadre qu'après une vingtaine d'années de vie professionnelle.
Cette définition du cadre était donnée par André Malter, l'ancien président de la CGC. Il était de 56 à 75 et l'extrait est daté de 1965. C'était sur France Inter. Et moi, ce qui m'a frappé en écoutant cette archive, c'est la définition finalement des cadres par le sexe, l'âge, la qualification, mais assez peu par les fonctions qu'ils occupent dans une entreprise. Est-ce que ça, c'est encore quelque chose de problématique quand on demande mais qu'est-ce qu'un cadre? Quel est le périmètre de responsabilité d'action des cadres, la définition peut devenir assez large. Carole Couvert.
Oui, d'où l'intérêt de revenir sur la définition cadre expert ou cadre manager pour permettre de recouvrer des réalités plurielles. Aujourd'hui, on va parler de cadre dirigeant, de cadre supérieur, de cadre manager. C'est quelque chose, c'est un statut qui n'existe pas ailleurs en Europe. Alors si on parle d'expertise et de manager, là, on arrive à se comparer avec les autres pays. En revanche, par rapport aux chiffres d'André que vous avez cités, la population a évolué. On est aujourd'hui à 3,5 millions de cadres en France. La féminisation a augmenté, on est à 36% de femmes. On a certes une grosse concentration en région parisienne, c'est là où il y a le plus de cadres. On a aussi une diversité de situations sur les salaires, on en a parlé tout à l'heure, mais on a quand même 10% des cadres qui gagnent moins de 33 000 euros bruts par an. C'est là où on en revient à la difficulté et on voit que le statut cadre a été utilisé pour contourner les 35 heures, ce qui pose d'autres problèmes sur la retraite complémentaire des cadres.
Denis Moneuse, une réaction à l'archive qu'on a entendue d'André Malter sur la définition des cadres.
Oui, c'est toujours compliqué en fait de définir ce que c'est qu'un cadre, parce que ce statut a été créé il y a exactement un siècle. À l'époque, en fait, les cadres, on les appelait parfois les ninis, au sens c'était les gens qui étaient ni ouvriers ni capitalistes. Et c'était ceux qui étaient une sorte de troisième voie entre les deux. Et donc c'est pour ça que c'est amusant le titre que vous avez retenu, savoir si les cadres sont des ouvriers comme les autres aujourd'hui. Parce qu'au départ, justement, on les opposait directement aux ouvriers. Effectivement, aujourd'hui, la catégorie des cadres est de moins en moins comprise, y compris par les cadres eux-mêmes. J'étais frappé lorsque j'ai fait des entretiens pour mon livre « Le silence des cadres » qu'un certain nombre de cadres que j'interrogeais parlaient des vrais cadres et des faux cadres. Les vrais cadres, ce sont ceux qui ne comptent pas leurs heures, qui ont un salaire confortable, qui sont reconnus dans l'entreprise, à qui on demande leur avis sur des décisions. Et puis les faux cadres sont tous ceux qui sont passés cadres il n'y a pas longtemps, qui ont des positions où ils ont assez peu d'autonomie finalement, où ils sont assez peu reconnus, avec des rémunérations assez faibles. Et donc c'est intéressant de voir finalement que les cadres eux-mêmes sont conscients qu'il y a les vrais cadres qui correspondent un peu au statut originel, et puis les faux cadres qui ont le titre, mais sans nécessairement avoir les attributs qui vont avec.
Comment expliquer qu'une grande partie des cadres, alors moi j'ai un chiffre qui est de 33%, mais vous me corrigerez peut-être, n'ont pas de fonction d'encadrement? Sophie Binet.
Eh bien parce que justement, depuis l'extrait sonore que vous avez passé aujourd'hui, la situation a changé, donc le nombre de cadres a augmenté, on a plus de jeunes, plus de femmes, et il y a surtout une diversité des missions et des fonctions exercées qui sont plus transversales, et la responsabilité d'encadrement, elle s'exerce à un instant T. Les cadres ont en commun de à peu près tous pouvoir, à un moment donné, encadrer des personnes, mais pas toujours à ce moment-là. Et donc, finalement, nous nous battons aujourd'hui pour avoir un statut statut de l'encadrement renouvelé qui corresponde aux défis du 21e siècle, qui soit en quelque sorte un statut de l'expertise et de la responsabilité qui permette de reconnaître cette diversité de fonctions. Et la première des choses, c'est d'abord la reconnaissance de la qualification, puisque on l'a dit, aujourd'hui il y a un vrai risque de déclassement. Ça serait quand même très paradoxal, alors que le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé en France qu'aujourd'hui, avec on a quasiment 40% d'une génération qui sort diplômée de l'enseignement supérieur, que ces diplômés de l'enseignement supérieur ne soient plus reconnus comme cadres. Leur qualification, elle est utilisée par les entreprises, elle sert, ça a été un levier très important pour augmenter la productivité, donc ça doit être reconnu. Le deuxième pilier pour nous très important, c'est permettre un vrai exercice de la responsabilité, permettre aux cadres d'être professionnellement engagés et socialement responsables, et donc d'avoir des droits opposables qui donnent un vrai contenu à la responsabilité, et puis regagner la maîtrise sur le contenu de notre travail, puisque effectivement il y a une taylorisation du travail intellectuel. De plus en plus on a des cadres qui sont confrontés à un management par les coûts, à des directives qui n'ont pas de sens par rapport à leur éthique professionnelle, par rapport à leur métier, et je crois que la société tout entière a besoin de permettre aux cadres de retrouver la maîtrise de leur métier et de pouvoir l'exercer en fonction de leur éthique professionnelle. On parle beaucoup des lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est cette problématique-là qui est posée. Quand on dit pour 55% des cadres, régulièrement les choix ou pratiques de leur entreprise entrent en contradiction avec leur éthique professionnelle, on voit que potentiellement, chez les cadres, on a 55% de lanceurs d'alerte. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de l'être, puisqu'ils sont enfermés dans une alternative, c'est se soumettre ou se démettre. Soit on se tait au nom du devoir de loyauté vis-à-vis de l'employeur, qui est une loyauté exclusive, soit si on a le courage de parler, bah là on finit comme Antoine Deltour devant les tribunaux au Luxembourg. Et donc nous, cette alternative ne nous satisfait pas. C'est pour ça que nous nous battons pour reconquérir le sens et le contenu de notre travail et pouvoir l'adosser justement aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Sophie Binet, vous nous donnez une définition des cadres qui est plutôt large. Si on se base effectivement, comme vous dites, sur l'expertise, sur les qualifications, est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir une catégorie cadre qui finalement englobera près de 80-90% des employés et des salariés?
On n'en est pas du tout là, puisque je vous disais, si on regarde juste par rapport au niveau de qualification, on est aujourd'hui à 40% de jeunes qui sortent diplômés de l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a aussi le critère d'autonomie et de responsabilité dans l'entreprise. Donc, c'est complètement caricatural. Encore une fois, quand vous dites ça, vous faites disparaître les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires. Donc, on n'en est pas là. Et nous, on se bat. Il y avait donc un organisme interprofessionnel qui garantissait la reconnaissance du statut cadre, qui s'appelait l'AGIRC. C'était la retraite complémentaire des cadres. Et l'AGIRC était sur un périmètre qui ressemble à ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire pas seulement les cadres encadrants, mais la notion d'autonomie, de responsabilité, d'expertise. Malheureusement, il y a eu un accord sur les retraites complémentaires en octobre dernier qui a supprimé cette caisse de retraite complémentaire pour les cadres, qui permettait d'avoir une reconnaissance du statut cadre dans les conventions collectives. Il faut maintenant reconstruire ce statut cadre et nous nous attelons à cette reconstruction, parce que ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que ça soit le patronat qui définisse dans l'entreprise, comme la loi El Khomri y encourage, qui est cadre et qui n'est pas cadre. Nous voulons avoir une définition interprofessionnelle de la notion de cadre.
Carole Couvert, comment lutter pour des droits spécifiques aux cadres dans la grande diversité des cadres aujourd'hui en France?
Alors, nous avons demandé, justement dans le cadre de l'accord sur les retraites complémentaires, à négocier un statut de l'encadrement qui ne soit pas un statut cadre au rabais. On a plusieurs problématiques. D'abord, pour que la France sorte de la crise qu'elle connaît, on mise, nous, sur la montée en gamme de la production française. On mise sur la recherche et développement et sur des concepts d'usine du futur, c'est-à-dire un mix homme-machine pour arriver à repartir de l'avant. Sur ces trois priorités, c'est l'encadrement qui va être en première ligne. C'est-à-dire que cette population, elle est amenée encore à se développer. Je vous disais tout à l'heure que c'était une population qui a augmenté. Ça sera encore le cas dans les années à venir. Donc, il faut vraiment que nous repensions le statut avec deux angles, d'un côté manager, de l'autre côté expert, pour pouvoir se comparer aux autres pays européens et arriver à faire quelque chose qui soit attractif. Je reviens à la fois quête de sens, Cette notion-là est fondamentale pour nous. Politique de reconnaissance. Et dans la politique de reconnaissance, il n'y a pas que le salaire. Il y a tout ce qui est périphérique, l'intéressement, la participation pour être associé à la valeur ajoutée de l'entreprise. Il y a l'autonomie, la responsabilité. Et je crois que nous avons de nombreuses choses à clarifier. On a sorti en juin 2015 un baromètre avec Opinionway qui démontre qu'on peut dans une entreprise faire le lien entre performance sociale et compétitivité. Donc aujourd'hui, le défi qui attend les entreprises qui ont envie de sortir de la crise, c'est assumer et travailler sur les conditions de travail, y compris l'organisation du travail elle-même. C'est mettre en place une vraie politique de reconnaissance et c'est créer un dialogue social qui est dans une recherche de compromis et non pas d'affrontement. Et donc avec ça, on arrive à repartir de l'avant. En tout cas, c'est le pari que l'on fait à la CFE-CGC. Mais encore une fois, les choses évoluent, les cycles se raccourcissent, donc nous devons être un petit peu plus agiles. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi sortir des clichés français du présentéisme. Le cadre n'est plus corvéable à merci. La jeune génération aspire à d'autres choses, notamment à la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et nous avons un rôle d'accompagnement par rapport à ces demandes nouvelles.
Denis Moneuse, votre travail d'enquête révèle notamment que 2/3 des cadres se sentent plus proches des autres salariés que des cadres dirigeants. Est-ce que les vrais cadres, entre guillemets, dans les entreprises, aujourd'hui, ce sont les cadres supérieurs, les cadres dirigeants ?
Effectivement. Après, il faut vraiment faire la distinction entre cadres dirigeants, qui est une catégorie précise du point de vue du législateur, de cadres supérieurs, qui est une catégorie qui est très différente d'une entreprise à l'autre. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, comme on a beaucoup augmenté le nombre de cadres, en fait, le nombre de cadres a doublé depuis les années 80, du coup, pour donner plus de prestige, aujourd'hui, on augmente le nombre de cadres supérieurs. Mais si tous les cadres deviennent cadres supérieurs, finalement, il n'y a plus de distinction et ce titre de cadre supérieur ne veut plus rien dire. Donc, effectivement, la vraie distinction, elle est entre cadre dirigeant et puis cadre tout court. Sur ces différences, effectivement, en fait, on parle beaucoup des salaires des grands patrons. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que derrière les salaires des grands patrons, il y a les salaires des cadres dirigeants qui sont très élevés aussi et qui n'ont rien à voir avec celui du manager de proximité ou d'un chef d'établissement, par exemple. Donc effectivement, en fait, ce statut de cadre, en fait, en prenant de l'ampleur avec de plus en plus de cadres, les différences se sont accentuées entre les cadres dirigeants et puis les autres.
Donc les inégalités sont plus entre les cadres, entre eux finalement, qu'entre cadres et ouvriers, Sophie Binet ?
Oui, il y a des différences très importantes qui, quand je disais 75% des cadres ne sont pas associés aux choix stratégiques, bien les cadres dirigeants, c'est essentiellement les 25% restants. Donc on voit bien la différence majeure. Mais nous, notre bataille, c'est d'arrimer le statut de l'encadrement au salariat, notamment sur les aspects de protection sociale. Parce que on disait le déclassement, vous parliez tout à l'heure de la question de la fiscalité. Effectivement, on présente parfois à tort les cadres comme des privilégiés avec un matraquage d'un certain nombre de mesures. Nous, on dit souvent, c'est le partage de la pénurie. On prend au cadre pour redistribuer aux ouvriers, aux employés, au lieu de s'intéresser aux dividendes, au capital, etc. Et donc, sur la question de la protection sociale, il y a un vrai enjeu. On a eu cet accord sur les retraites complémentaires qui va malheureusement baisser de 18% le montant des retraites complémentaires pour les jeunes cadres d'aujourd'hui. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'en baissant le montant de retraite pour les jeunes cadres, eh bien, on les pousse vers la capitalisation. Et là, on sait qu'aujourd'hui, les assureurs ont bien repérer le marché du 21e siècle et donc la casse, leur objectif c'est de récupérer ces parts de marché et ils s'intéressent bien sûr beaucoup plus à la retraite des cadres et a fortiori des cadres dirigeants que à celle des ouvriers. Et donc pour nous, l'enjeu c'est de montrer que l'universalité c'est le meilleur des systèmes à la fois pour les cadres comme pour les ouvriers et d'assurer le maintien du niveau de vie et donc d'avoir un taux de remplacement, une protection sociale, un chômage, une retraite qui soit le plus proche possible du niveau de salaire quand on est en poste. Par exemple, on est aujourd'hui dans la négociation sur l'assurance chômage. On a défendu une proposition ensemble, il me semble, d'augmenter le niveau de cotisation des cadres, de faire cotiser l'ensemble des cadres à l'assurance chômage de façon à ce que ça soit aussi le chômage soit calculé sur l'ensemble de leur salaire. Et bien finalement, quand on regarde cette proposition, elle permet de faire entrer beaucoup plus de ressources qu'elle ne coûte. Pourquoi ? Parce que les cadres dirigeants sont très peu au chômage, mais par contre, ils cotisent beaucoup. Et donc, finalement, cette proposition de déplafonnement des cotisations des cadres dirigeants et de déplafonnement des allocations, bien sûr, ça conduit à avoir des cadres dirigeants qui toucheraient potentiellement 8 000 ou 9 000 euros d'allocation chômage, mais par contre, ça dégagerait 800 millions d'euros supplémentaires pour l'assurance chômage, donc ça permettrait de résoudre l'essentiel du déficit qui est posé aujourd'hui. Donc, on voit bien l'intérêt pour tout le monde d'avoir les cadres qui soient dans le système de protection sociale universelle et pour tout le monde, plutôt que de les mettre dans une catégorie à part où ils iraient dans leur propre caisse par capitalisation.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants dans vos syndicats respectifs, ces fameux 25%, des fois on dit 10% des traits aux cadres?
Et il y en a, notamment dans tout le secteur des syntech. Syntech, c'est-à-dire les consultants informatiques, les informaticiens, il y en a. Mais je crois,
et donc
je crois...
ils sont affiliés à la CFE-CGC?
Oui, sauf s'ils sont mandataires. S'ils sont mandataires, s'ils ont une délégation de l'employeur, ils sont pas chez nous. En revanche, oui, nous en avons.
Et chez vous, Sophie Binet, à l'UGIC de CGT?
Nous, il y en a, mais peu, qui souvent sont obligés d'être anonymes pour pouvoir se syndiquer, parce que on l'a pas dit, mais la difficulté quand on est cadre, c'est que à ce prétexte-là, le patronat dénie au cadre la possibilité d'exercer des droits collectifs. Il y a moins de cadres qui font grève. Pourquoi? Parce que souvent, on leur explique qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, qu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Et justement, cette histoire de loyauté vis-à-vis de l'employeur, eh bien, c'est utilisé comme une loyauté exclusive vis-à-vis de l'employeur qui empêche d'avoir un engagement syndical, etc. etc.
Faut-il supprimer le statut cadre? C'est une question que vous posez dans votre livre, Denis Moneuse, et vous amenez quelques pistes de réflexion qui pourraient se substituer au statut cadre, des catégories plus proches des métiers, les ingénieurs d'un côté, les experts, les managers. Vous nous détaillez un petit peu cette proposition?
Oui, en fait, je pars du constat qu'on a fait un peu ce soir, que le statut de cadre est plus flou aujourd'hui, parce qu'il recouvre, il y a une sorte de banalisation du cadre. Et il me semble qu'aujourd'hui, la vraie différence, elle est non pas entre les cadres et les non-cadres, mais entre les managers et les non-managers. Par exemple, un chef d'équipe aujourd'hui sera souvent sous le statut de technicien et non pas sous le statut de cadre, alors que quand on est chef d'équipe, on dirige une équipe de quelques personnes, voire plus. Et il me semble que la vraie distinction, elle est au niveau de est-ce qu'on est manager ou pas. Et on devrait peut-être réfléchir justement à faire une distinction plus visible entre manager et non-manager. Peut-être qu'on pourrait imaginer que les droits et les devoirs des managers sont peut-être différents. On devrait peut-être avoir des accords collectifs qui distinguent les managers des non-managers.
Carole Couvert, la suppression du statut cadre, ce serait la fin de la CFE-CGC?
Non, la question, c'est pas la fin de la CFE-CGC. Je crois que la question, au travers de votre émission, c'est aussi le modèle de société que nous voulons demain. Et encore une fois, la CFE-CGC est attachée à l'ascenseur social, permettre à chacune et à chacun d'évoluer, redonner l'envie. Et donc, pour ça, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Denis Moneuse. C'est pour ça que nous, quand nous demandons un statut de l'encadrement, et pour l'instant, la balle est dans le camp du patronat qui ne donne pas une suite favorable à cette demande, hein, alors que c'est acté dans l'accord sur les retraites complémentaires. Quand nous demandons à travailler sur un statut de l'encadrement autour des notions de manager et d'expertise, c'est bien ça. C'est pour redonner du sens, des perspectives et tirer tout le monde vers le haut. Sinon, c'est l'ensemble de la société française qui sera paupérisée. Ça voudra dire moins de consommation et c'est pas comme ça que la France sortira de la crise que nous connaissons.
Sophie Binet, je vous demande pas si vous êtes pour ou contre la suppression du statut cadre, car je pense que vous êtes contre, mais dans l'idée d'avoir des catégorisations un peu plus ciblées sur les métiers, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, on est favorable à un statut de l'encadrement qui a un périmètre large, pour les raisons que j'ai exposées. Après, à l'intérieur de statut de l'encadrement, il y a une diversité, il y a des spécificités liées à l'exercice professionnel. Par exemple, il y a besoin d'avoir des droits particuliers pour les managers liés à l'évaluation qui leur permettent d'avoir une vraie pratique d'évaluation de leurs équipes, de définir vraiment les critères, d'avoir un suivi de leurs équipes, etc. Et c'est pas la même chose de ce point de vue-là quand on est encadrant que quand on n'a pas de personnes sous ses directives. Donc, bien sûr qu'il faut regarder la diversité des situations, mais il y a des points communs qui justifient qu'il y ait un statut de l'encadrement. Et ce point commun, c'est vraiment la responsabilité et l'expertise. Et donc qui permettent, et justement, nous, l'enjeu du statut de l'encadrement, c'est pour pouvoir reconquérir l'exercice de notre éthique professionnelle et d'avoir, finalement, au début du siècle, je pense, quand le statut cadre a été créé, on parlait aussi des cadres de la nation. Et ça, cadre de la nation, ça avait un vrai sens, y compris civique. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut aussi retrouver ce sens. C'est pour ça que nous parlons d'adossement à l'intérêt général et à l'éthique professionnelle, pour que le fait d'être cadre, ça donne des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis de l'intérêt général.
Denis Moneuse, une dernière réaction, vous avez 15 secondes.
Oui, je pense que, en fait, en donnant le statut de cadre à trop de monde et pour des mauvaises raisons, en fait, on crée des fausses promesses et il me semble que les fausses promesses, ça crée des déceptions.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC, Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'UGICT-CGT. Et merci à vous, Denis Moneuse, sociologue, chercheur associé à l'Institut d'administration des entreprises de Paris et directeur du cabinet de conseil Poil à gratter. Je rappelle votre ouvrage qu'on trouvera également sur notre site, Le silence des cadres, enquête sur un malaise aux éditions Vuibert en 2014. Merci aux équipes de la Radio Nationale espagnol à Madrid qui ont permis ce duplex. Commentaires, réécoute, podcast, c'est sur notre site franceculture.fr à la page Du Grain à Moudre. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Antoine Dulster et Hugo Florent. À la réalisation ce soir, c'était Olivier Bétard, prise de son Jean Frédérics. On se retrouve demain, 18h20. Qui peut encore résoudre le conflit israélo-palestinien? C'est la question dont nous débattrons. En attendant, il est 19h sur France Culture. Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde et Martin. Bonsoir, c'est à vous.